Il est 7h48, Léa Salamé, votre invitée ce matin est avocat.
Bonjour à vous Hervé Temim.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'avocat de Catherine Deneuve, Roman Polanski, Bernard Tapie ou encore Bernard Arnault, pour ne citer qu'eux, mais vous préférez qu'on dise de vous que vous êtes le Zidane des barreaux plutôt que l'avocat des riches et des puissants. Vous sortez un livre, Secret Défense, avec la collaboration de Marie-Laure Delorme chez Gallimard, où vous écrivez avec précision, vous décrivez avec précision la machine judiciaire, le rôle de chacun, le rôle du juge, le rôle de l'avocat, le rôle des médias. Ce livre est surtout un hommage, une ode au secret. Vous écrivez « Le secret passe pour suspect. Les êtres secrets n'ont pourtant rien à dissimuler, mais tout à préserver. » Est-ce parce qu'un avocat se méfie forcément de la transparence, parce qu'il prend forcément des libertés avec la vérité, qu'il aime tant le secret ?
D'abord, merci de la présentation que vous avez faite de moi. Vous avez vu à quel point je suis modeste. non, je crois pas. J'aime le secret depuis toujours. J'ai toujours aimé le secret. Je ne suis pas devenu avocat parce que j'aime le secret. Un avocat ne se méfie pas toujours de la transparence. La liberté qu'un avocat prend avec la vérité, c'est vrai qu'il en prend, car il n'est pas au service de la vérité, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne l'intéresse pas, n'a rien à voir avec le goût du secret que j'ai. Le goût du secret que j'ai est lié à quelque chose de beaucoup plus intime, de plus profond, et qui n'est pas que professionnel. C'est que je déteste les gens qui mettent tout sur la table, et les gens qui n'ont pas le goût du secret. J'en ai le culte, c'est peut-être un peu excessif, mais je crois que ça se perd et que c'est dommage.
Vous n'aimez pas l'époque, donc, puisque l'époque n'aime pas plus tellement le secret. Vous déplorez la fin du secret, le secret professionnel, le secret de l'instruction. Vous dénoncez les lynchages publics, la violation de la présomption d'innocence. Mais n'est-ce pas là aussi la conséquence de 100 ans où la justice, de 100 ans ou plus, où la justice a été rendue dans l'intérêt des puissants? Est-ce que c'est pas un juste retour de balancier ce qui se passe en ce moment?
Alors, oui. La justice n'a pas été rendue dans l'intérêt des puissants, mais elle a été rendue pendant beaucoup trop longtemps en les protégeant, ou en semblant les protéger quand elle ne le faisait pas. Et donc, évidemment, il y a un retour de balancier, mais le simple fait d'utiliser l'expression utilisée montre qu'il y a un excès. Ce que je dénonce, c'est pas du tout l'époque, j'aime bien l'époque. J'en aime pas les excès, mais je suis heureux dans cette époque, malgré tout. Mais en revanche, il y a des excès qui sont absolument intolérables. Le fait de ne plus protéger les puissants, le fait que chacun paraissent être à égalité face à la justice, ne permet pas des dérives qui nuisent à tous. Et aujourd'hui, c'est une espèce de correction de l'histoire, comme vous dites, mais qui n'est pas si positif que cela.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que si vous voulez, je crois que il faut pas. La justice n'a pas à se niveler par le bas. Les puissants n'ont pas à avoir le sort des plus faibles. Chacun doit être bien traité par la justice. Chacun doit être traité de manière équitable. Aujourd'hui, quand vous êtes puissant ou considéré comme tel, vous êtes devenu plus exposé face à la justice. Ça n'est pas anormal de l'être. Ça n'est pas normal d'être plus exposé qu'un autre. Tout le monde doit être à égalité devant la justice.
Prenons l'exemple de l'affaire où vous êtes partie prenante et dont le procès commence dans 2 mois. Le fameux procès Bismuth, procès pour soupçon de corruption qui vise Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog. Vous êtes l'avocat de Thierry Herzog. Ils sont soupçonnés d'avoir essayé de soudoyer un magistrat de la Cour de cassation. Dans cette affaire, les lignes téléphoniques de Nicolas Sarkozy et de Thierry Herzog, mais aussi d'autres grands avocats de la place de Paris, dont vous, ont été surveillés. Vous dites là, le secret professionnel, le secret judiciaire a été bafoué. En quoi ?
Alors d'abord, je défends Thierry Herzog et ce qui m'importe en premier lieu, parce qu'il n'aurait pas dû être jugé, c'est qu'il ne soit pas condamné. Mais le secret professionnel a été bafoué de manière considérable. Et la violation de ce secret a été couverte, il n'y a pas d'autre terme à utiliser, par la Cour de cassation. Donc, pourquoi il y a eu une violation absolument incroyable du secret professionnel ? C'est parce que, alors que chacun savait que Nicolas Sarkozy était défendu par Thierry Herzog dans plusieurs procédures judiciaires en cours, des enquêteurs et un juge d'instruction ou des juges d'instruction ont écouté tous leurs propos, y compris les plus secrets. Et vous voyez, je vais dans votre sens, je n'utilise même pas l'argument du fait que M. Sarkozy était ancien président de la République et chef de l'opposition. Admettons même qu'il soit un citoyen lambda, je ne veux pas qu'on écoute mes propos avec vous si je vous défends.
Certes, Hervé Thémy, mais pourtant il y a eu un rapport de l'inspection générale de la justice qui a été rendu il y a quelques jours au ministère de la Justice, au garde des Sceaux, qui dit en gros non. Le parquet national financier n'a pas commis de faute, les enquêteurs n'ont pas exposé excessivement la vie privée et le secret professionnel.
Mais si vous avez lu ce rapport dans son intégralité, je ne vous souhaite pas.
129 pages.
129 pages, dont des annexes. Vous sauriez que ce rapport a indiqué qu'il n'était pas chargé d'évaluer, et heureusement, l'opportunité de l'enquête préliminaire et de ses mesures, la légalité de ses mesures et la proportionnalité de ses mesures. Alors oui, il était non pas du tout en charge des écoutes entre Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog, mais de l'examen des fadettes d'avocats, dont les miennes, ce qui me fait sourire, même si c'est grave. Et là, si vous voulez, il n'avait pas à juger la légalité. Allez-y.
Parce qu'il y a plein d'autres choses dans votre livre. Non, mais je voudrais parler de votre livre. Vous en reparlerez du procès, c'est dans 2 mois.
C'est vrai.
La présomption d'innocence, dites-vous, est mise à mal. Vous êtes, vous, l'avocat de Roman Polanski et de Patrick Bruel, entre autres. Vous dites attention aux dénonciations médiatiques de viol ou de harcèlement. Attention aux tribunaux populaires et aux chasses à l'homme sur les réseaux sociaux. Faut-il y voir une critique du mouvement MeToo, Hervé Thémime ?
Certainement pas. Vous avez lu mon livre, donc vous savez que je ne le critique pas, bien au contraire. Mais
vous prenez des précautions en disant que c'est très bien MeToo, mais
je prends des précautions que chacun prend quand il observe ce qui se passe. Non, c'est très bien parce qu'effectivement, il y a un problème de fond qui est quand même le comportement de beaucoup d'hommes à l'égard de beaucoup de femmes et le traitement par la justice, et pas seulement par la justice, des violences faites aux femmes et d'ailleurs pas seulement des violences sexuelles. Mais est-ce qu'on doit admettre pour autant que les réseaux sociaux ou le tribunal médiatique, il paraît que ça n'existe pas. On vient de proposer dans une émission à Roman Polanski de s'asseoir dans un fauteuil rouge pour participer à un tribunal médiatique. Je plaisante pas, j'ai la pièce. Est-ce qu'on doit accepter que le tribunal médiatique se substitue au tribunal judiciaire ? Est-ce qu'on doit accepter que toute plainte soit considérée comme une condamnation, même si aucune enquête n'est possible ? Bien sûr que non. Vous me permettez de lire quelqu'un qui n'est pas Elisabeth Badinter, qui est Blanche Gardin. On a chacun ses références. Voilà ce que dit Blanche Gardin sur ce sujet. Je ne me reconnais pas dans le discours de certaines militantes dites radicales que je trouve polarisées, binaires et manichéens. Je doute qu'ils puissent aider la cause. Ils pourraient même la desservir. Je ne suis pas pour la guerre des sexes. Traiter tous les hommes de machos et accuser la justice de ne jamais condamner les violeurs, tout ça est faux. Je suis pour la vérité, soutenir les femmes qui souffrent, oui, sans pour autant se victimiser. Être féministe ne m'empêche pas d'aimer l'idée qu'un mec soit différent d'une femme, même s'il faut continuer de mener le combat pour l'égalité, notamment salariale. Il n'y a pas deux combats qui s'opposent. Pas parce qu'on est pour une justice équilibrée et digne qu'on est contre le combat pour le respect de la dignité des femmes.
En même temps, vous dites, on révèle des accusations de viol contre Roman Polanski sur des faits qui ont eu lieu il y a 45 ans, donc ces faits sont prescrits. Mais est-ce que parce que, au motif qu'ils sont prescrits, on ne devrait pas en parler ?
Je ne dis pas ça. Est-ce qu'au motif qu'ils sont prescrits et que donc il ne pourra jamais être condamné, on doit le traiter comme un coupable ? Est-ce qu'au motif qu'aucune enquête ne pourra jamais être faite, il doit être désigné comme un coupable ? Je dis simplement, si vous m'avez lu, vous m'avez lu. Je dis simplement que lorsqu'on publie des accusations pareilles, il y a une responsabilité éditoriale. Je suis pas du tout pour un organisme de déontologie des journalistes. On prend une responsabilité terrible. Parce qu'on sait qu'il n'y aura aucune enquête. On sait qu'il suffit de publier pour qu'il soit considéré comme coupable. Donc je dis halte.
Vous dites, c'est la faute aux journalistes. Vous parlez des journalistes. Il y a des pages sur les journalistes. Vous ne nous ménagez pas, tout en disant d'ailleurs assumez vos contradictions et adorez parler à la presse.
Et les journalistes. J'ai beaucoup d'amis journalistes, je leur dis rien.
C'est la faute aux journalistes ou c'est la faute aux réseaux sociaux?
Non, là, en l'espèce, c'est la faute aux journalistes. C'est pas la faute aux journalistes, je reprends votre expression. C'est la responsabilité des journalistes. Il y a une responsabilité. On publie, on publie pas. Vous êtes sans doute confronté tout le temps à cette question. Je dis ou je ne dis pas. C'est pas la faute, c'est la responsabilité d'eux.
Il y a une sorte de vibration existentielle qui parcourt votre livre. Vous avez cherché dans ce métier des réponses à des questions que vous vous posiez peut-être sur la nature de l'homme. Oui. Hervé Thémime, je sais pas si c'est votre ami, en tout cas votre collègue Éric Dupond-Moretti a été nommé ministre de la Justice, un avocat. Est-ce que vous auriez aimé l'être également ?
Je crois qu'aujourd'hui, non, j'aurais pas aimé l'être, mais c'était un rêve de gosse, parce que, vous savez, tous les avocats de ma génération et de celle d'Éric Dupond-Moretti ont grandi avec un modèle dont on pensait qu'il avait tué le métier en quelque sorte, qui est Robert Badinter, cet avocat qui sauve des têtes et qui ensuite abolit, enfin c'est le président Mitterrand, mais abolit la peine de mort, c'est un modèle phénoménal, et Éric Dupond-Moretti s'inscrit dans cette tradition, donc c'est une consécration pour lui, et je demande qu'on lui laisse du temps, et qu'on ne le prenne pas en grippe comme c'est le cas aujourd'hui, et qu'on ne considère pas que dès dès qu'il fait quelque chose de bien, c'est de la diversion. Non, moi aujourd'hui, pour des raisons nombreuses, ça m'aurait été très... Oh, non, on m'a rien proposé, hein, je vous rassure. Donc je... Vous savez, c'est tous les gens à qui on propose rien, l'auraient refusé, ça leur plaît pas, mais non. Mais...
Bon, ben, voilà. Bon, ben, c'est surtout qu'on vous a pas proposé.
Ben, c'est ça, bien. Voilà. Oui. Bon, mais j'essayais d'être un peu le Zidane du Baron, on peut pas vous dire quand même que vous l'avez pas proposé, mais qu'il aurait aimé.
Ça s'appelle Secret Défense, il y a tout ça et bien d'autres choses. Hervé Thémy, mon collaboration avec Marie-Laure Delorme, c'est chez Gallimard. Merci et belle journée à vous.
Merci, à vous. Léa, à tout à l'heure, 7h58.